Alors, pourquoi vous parlez du nom de Jésus? Alors, après les Halles, jusqu'à la fin de l'année, ça sera sur Jésus. Mais on parlera du Fils de Dieu, du Fils de l'homme. Mais là, on commence tout par le nom de Jésus. Alors, pourquoi? Parce que, mais tout simplement, si vous ouvrez l'Évangile, quand vous allez l'Annonciation Marie, donc c'est chez Saint-Luc. Donc, tu lui donneras le nom de Jésus. Après, vous allez chez Saint Matthieu, c'est l'Annonciation à Joseph. Tu lui donneras le nom de Jésus. Et en plus, il explique parce que Dieu sauve, hein, il sauvera son peuple de ses péchés. Voilà. Puis après, la circoncision, donc c'est Saint Luc. Donc, on lui donne le nom de Jésus. Hein, bon. Alors, je me suis dit, bon, c'est pas un nom parmi d'autres, c'est vraiment le nom de Jésus. Hein. Après, il y a d'autres noms. On le retrouve même à la fin de l'Évangile, il n'est même pas apporté à la fin, plus exactement, du Nouveau Testament, hein, « Viens Seigneur Jésus hein, », à la fin de l'Apocalypse. Donc on le retrouve tout le temps. Oui, oh, bah, oui quand Saint Paul se convertit, qu'est-ce qui lui apparaît? C'est Jésus, mais qui lui dit... Alors Saint Paul dit, ce n'est pas encore Saint Paul, c'est Saul, mais qui es-tu? Qui es-tu, Seigneur? Je suis Jésus que tu persécutes. Alors tout ça simplement pour vous dire que voilà, c'est pas un nom parmi d'autres, celui de Jésus. C'est vraiment le nom par excellence de Jésus. Alors on peut l'appeler Fils de Dieu, Verbe de Dieu. Enfin, il y a plein de Christ, Messie, Emmanuel, Serviteur, Maître. Enfin, mais Jésus, c'est quand même le nom par excellence. Mais bon, je vous en parlerai un petit peu plus après. Alors, trois parties, pour que vous ne soyez pas perdus. Alors, je vais d'abord parler du. Je vous parle donc, le thème, c'est le nom de Jésus. Et je vais vous parler d'abord du nom dans la Bible. Qu'est-ce que c'est qu'un nom dans la Bible? Parce que la culture biblique n'est pas exactement la même que la nôtre. Donc, donner un nom dans la Bible, ce n'est pas la même chose que pour nous. On ne voit pas exactement, en tout cas. Donc, voilà. Donc, ça sera la première partie, le nom dans la Bible. Deuxième partie, c'est sur plutôt le contenu du nom de Jésus, c'est Dieu sauve. Alors, plutôt sur le salut. La deuxième partie, ça sera plutôt sur le salut. Qu'est-ce que c'est le salut, etc. Et la troisième partie, donc, ça sera plus directement sur le nom de Jésus, la manière dont on peut prononcer le nom de Jésus, etc. Enfin, ça vous va? Donc, on démarre sur le nom. Vous savez que dans la Bible, alors tout ça, avec ce que je vous dis sur le nom, c'est avec en arrière-fond pour apprécier mieux aussi quand Dieu nous donne le nom de Jésus. Voilà, c'est pas rien de nous donner ce nom. Alors, dans la Bible, le nom, d'abord, ça dit quelque chose de la personne et de sa mission. Alors, il y a des choses que vous savez certainement dans ce que je vais dire, mais peut-être que vous allez en découvrir aussi, je ne sais pas. Mais voilà, ça nous dit d'abord quelque chose de l'identité de la personne. Job dit que être sans nom, c'est être un homme de rien. Et là, on voit aussi, quand on entend le bon pasteur qui connaît ses brebis chacune par son nom, hein, dans Isaïe, on t'appellera d'un nom nouveau que la bouche du Seigneur choisira. Mais je te connais par ton nom, ça c'est dans l'Exode. Enfin, vous en trouvez partout dans la Bible, on parle souvent du nom dans la Bible. Ou dans Isaïe, le Seigneur m'a appelé dès le sein maternel. Dès les entrailles de ma mère, il a prononcé mon nom. Alors, du coup, c'est important parce que ça touche à la. Quand on connaît le nom, ça nous dit quelque chose vraiment de la personne. Plus ou moins. Mais quand on a ce nom de Jésus, ça nous dit vraiment quelque chose de Jésus. Ce n'est pas quelque chose de périphérique, mais si l'ange à Marie, à Joseph a voulu ce nom, ben, ce n'est pas pour rien. Alors, ce que vous connaissez aussi, c'est que dans la Bible, il arrive qu'on change le nom d'une personne, hein, Abraham, qui devient Abraham, Cephas, qui devient Pierre, ou enfin, on change. Mais à ce moment-là, c'est souvent une mission nouvelle qui est donnée, ou Jacob, qui devient Israël. Alors, je pourrais prendre beaucoup d'exemples dans la Bible, mais je ne vais pas m'attarder trop dans tous ces exemples, mais de voir l'importance du nom dans la Bible. D'ailleurs, vous vous rappelez du combat de Jacob, c'est dans le livre de la Genèse. Et à un certain moment, il y a ce mystérieux combat de Jacob avec l'ange, au chapitre 32. Et alors, qu'est-ce que demande Jacob à son interlocuteur? Il se bat avec et tout ça. Et oui, mais avant, fais-moi connaître ton nom. Et alors, et après il va le bénir, mais justement, je lis. « Fais-moi connaître ton nom, je t'en prie. » Mais son interlocuteur répondit « Pourquoi me demandes-tu mon nom ?» Et là, il le bénit. Il ne lui a pas demandé de le bénir directement, il lui a demandé son nom et puis il l'a béni. Voilà. Bon. Alors, le nom, donc ça dit quelque chose de l'identité de la personne. C'est, on invoque aussi le nom. Dans connaître le nom de quelqu'un, ça nous donne une certaine prise sur lui. Alors ça, c'est vrai, même dans hors du monde biblique, on voulait savoir le nom de Dieu, on pensait avoir un certain pouvoir sur Dieu quand on connaît le nom, où ça nous permet déjà tout simplement d'interpeller quelqu'un quand on ne connaît pas le nom. Et toi là-bas, quand même mieux de connaître le nom. Mais du coup, il y a aussi cette fonction du nom de pouvoir s'adresser à la personne, entrer en dialogue avec la personne, pas simplement mettre une étiquette, on pourrait dire, mais vraiment entrer en relation avec la personne. Dans l'Ancien Testament, dans le culte, ce qui est essentiel, c'est justement de prononcer le nom. On verra un petit peu plus loin. Par exemple, le jour du Yom Kippour, donc le grand prêtre prononçait le nom de Dieu. On voit que on attache une importance assez grande à dire le nom. C'est pas tellement dans notre culture de la même manière, en tout cas pas de la même manière. Et toujours sur ce nom dans la Bible, c'est en partie vrai dans notre culture, mais on peut parler au nom de quelqu'un. Du coup, on se réclame de son autorité, à tort ou à raison, hein, quelquefois. Il y a des faux prophètes qui prétendent parler au nom de Dieu, mais en fait, voilà, ils attribuent à Dieu ce qu'ils ont envie de dire. Ou le serment aussi, on s'appuie sur le nom de Dieu, hein, pour prêter serment. Alors on verra aussi un peu plus loin justement que tu ne prononceras pas le nom de Dieu en vain. Hein, il y a tout ça pour dire toute l'importance du nom dans la Bible. Hein, voilà, c'est assez général ce que je viens de dire. Et après, est-ce que vous connaissez le tétragramme? Alors tétragramme, donc c'est les je crois que je peux écrire les lettres. Je vois qu'il y a des gens connaisseurs. Hein. Oula, moi je ne suis pas très doué là-dedans. Il y a quatre lettres, hein, pardon. Il y a quatre lettres, il n'y a pas de voyelles. C'est ce qu'on appelle le tétragramme. Alors, où on le trouve, le tétragramme, on le trouve dans l'Exode essentiellement, d'abord, pas seulement, mais au point de départ dans l'Exode, parce que Abraham ne prononce pas le nom de Dieu. Mais justement, vous vous rappelez de l'épisode avec Moïse. Je vous lis, c'est au chapitre 3, alors c'est archi connu, hein, ce que... du verset 12 à, je vais vous lire du verset 12 à 15, mais c'est vraiment la révélation du nom de Dieu dans l'Ancien Testament. Donc Dieu répondit à Moïse, « Je suis avec toi, et tel est le signe que c'est moi qui t'ai envoyé. Quand tu auras fait sortir d'Égypte mon peuple, vous rendrez un culte à Dieu sur cette montagne. » Moïse répondit à Dieu, « J'irai donc trouver les fils d'Israël et je leur dirai, « Le Dieu de vos pères, jusque-là, il était appelé le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Le Dieu de vos pères m'a envoyé vers vous. » Ils vont me demander, « Quel est son nom ?» Que lui répondrai-je ? Dieu dit à Moïse, « Je suis qui je suis. » Alors, il y a plusieurs manières de traduire, je vais pas si je détaillerai un tout petit peu après. « Tu parleras ainsi aux fils d'Israël, celui qui m'a envoyé vers vous, c'est « Je suis ». Dieu dit encore à Moïse, « Tu parleras ainsi aux fils d'Israël, celui qui m'a envoyé vers vous, c'est le Seigneur. » Alors, je crois que c'est le Seigneur. « Le Dieu de vos pères, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, c'est là mon nom pour toujours. C'est par lui que vous ferez mémoire de moi d'âge en âge. » Voilà. C'est très important, hein, cette révélation du nom de Dieu pour entrer en relation vraiment avec le Seigneur, pour savoir qui il est. Alors, quand il dit « Je suis qui je suis », alors c'est « Ayez à chair, ayez ». Je ne sais pas si ça vous donne beaucoup d'émotions, mais voilà, en tout cas, je ne sais même pas si c'est avec « je prononce bien », mais il y a plusieurs manières de le traduire. Hein, alors, quelquefois, on dit « Je suis qui je suis », d'autres fois, on traduit « Je suis qui je serai », c'est plus un futur. Où il y en a qui traduisent « Je suis celui qui est ». Et du coup, un certain nombre l'interprètent comme « Je suis qui je suis ». Bon, quelque part, c'est un peu une fin de non-recevoir. On ne met pas Dieu dans une petite boîte. Donc, on ne peut pas m'enfermer dans un nom, en quelque sorte. Donc, c'est une manière de comprendre. Alors après, il y a des interprétations légèrement différentes de cette manière qu'a Dieu de se nommer. Il semble en tout cas que c'est pas, même si en Occident on l'a interprété d'une manière peut-être un peu plus philosophique, je suis l'être suprême, en fait, semble-t-il, c'est pas vraiment dans ce sens-là que dans le monde hébreu c'était imaginé. C'est plutôt je suis celui qui est toujours avec vous. Hein, c'est plutôt, si tu me fais confiance, ben, tu pourras t'appuyer sur moi. Hein, et au chapitre, alors là c'est au chapitre 3 de l'Exode, mais un peu plus loin, Dieu va expliciter son nom. Alors, c'est beaucoup plus loin, c'est au chapitre 34 de l'Exode. Le Seigneur descendit dans la nuée, se tint près de lui et proclama le nom du Seigneur. Le Seigneur passa devant lui en proclamant le Seigneur, le Seigneur, Dieu miséricordieux et gracieux, lent à la colère et riche en grâce et fidélité. Alors, du coup, là, on voit que Dieu précise son nom avec la miséricorde, la bienveillance, la grâce, la fidélité. Alors, du coup, ce nom de Dieu, c'est le nom imprononçable. Là, on ne sait pas très bien, d'ailleurs, comment il était prononcé, ce nom. On avait intercalé des voyelles, mais alors souvent les Juifs, justement par respect, c'est aussi par respect par rapport au nom de Dieu. On ne voulait pas le prononcer, alors à la place du tétragramme, il disait Adonai, souvent, ou Elohim, voilà. Et du coup, vous savez que la Bible a été traduite en grec, à peu près en 270 avant Jésus, ce qu'on appelle les Septante. Hein, on a donné le texte hébreu et puis ils l'ont traduit en grec. Et à ce moment-là, ils ont mis le Seigneur. Ils l'ont alors par Kyrios, hein, Seigneur Kyrie Eleison, hein, Kyrios. Ils ont traduit par le Seigneur, et non pour, par respect pour le nom de Dieu. Et du coup, quand Saint Jérôme a traduit en latin, la Vulgate, ce qu'on appelle la Vulgate, lui, il a mis Dominus, hein, le Seigneur. C'est comme ça que ça a été traduit. Mais du coup, voilà, on ne cherchait pas à prononcer ce nom, et on ne sait pas très bien comment il se prononçait d'ailleurs. Mais ce qui est intéressant, c'est que, alors, dans l'hébreu, il y a beaucoup de noms propres qui contiennent en eux-mêmes le nom de Dieu. Hein, si vous avez, Yeshua, alors c'est Josué ou Jésus, c'est le même nom, mais j'y reviendrai un peu plus loin. Ou Yoram, ou Yahou, alors c'est Adonia, alors c'est à la fin du mot pour Adonia. Donc c'est une forme pour dire le nom de Alléluia, c'est louer Dieu, hein, Alléluia. Donc voilà. Mais on prononce pas directement le nom de. Alors je vais l'écrire, je vais pas le prononcer. Hein, pour dire que dans nos Bibles, par exemple. Oula, j'ai plus l'habitude de. Alors, dans nos Bibles de Jérusalem, entre autres, on écrit le nom de Dieu comme ça. Mais en 2008, là, il y a eu un document de Rome pour dire non, par respect aussi pour nos frères juifs, et puis parce qu'il ne faut pas le prononcer. Donc, si vous voyez, vous dites le Seigneur. Voilà. Au revoir. Alors, surtout dans la liturgie. Dans la liturgie, depuis très longtemps, on ne prononce pas le nom, on dit le Seigneur à la place. Mais comme c'est écrit comme ça dans notre Bible, là, on ouvre la Bible et puis on lit comme ça. Mais normalement, on ne doit pas le faire. Non, c'est pour vous culpabiliser que je vous dis ça. Mais, voilà, donc. Et alors, du coup, dans le monde juif, justement, pour ne pas le prononcer, il y a tout. Ils prennent des périphrases ou des circonlocutions là, pour éviter de prononcer le nom de Dieu. Alors, quelquefois, ils disent le nom, mais quand ils parlent du nom, ils parlent de Dieu. Hein, mais du coup, alors souvent, on parle du Seigneur et. Oui, connaître Dieu et connaître son nom, c'est la même chose finalement. Hein. Ou louer le nom du Seigneur, c'est louer le Seigneur. Hein. Mais souvent, pour éviter de parler de Dieu directement, on sent ce respect autour du nom. Et vous le trouvez par exemple dans les Béatitudes. Je vous lis les Béatitudes. Heureux ceux qui pleurent, ils seront consolés. Heureux les doux, ils recevront la terre en héritage. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, ils seront rassasiés. Heureux les miséricordieux, ils obtiendront miséricorde. Vous voyez le Dieu dans. Non, en fait, c'est ils utilisent ce qu'on appelle le passif divin. Pour éviter de. Ils auraient pu dire heureux ceux qui pleurent, car Dieu va les consoler. Mais ils mettent un passif, ils seront consolés, mais comme ça on évite de prononcer directement Dieu. Heureux les doux, ils recevront la terre en héritage, mais nous on ne sait pas, mais ceux qui entendaient ça, ils savaient que c'est Dieu qui nous donnera la terre en héritage. C'est pas, il ne va pas nous tomber du ciel, entre guillemets, comme ça, du ciel avec un grand C. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, ils seront rassasiés. Ça veut dire que c'est Dieu qui va les rassasier. C'est pas. Mais donc nous, il y a des subtilités comme ça qui nous échappent un petit peu. Mais pour les Juifs, on évitait au maximum de prononcer le nom de Dieu, par respect toujours. Voilà. Alors, vous gardez tout ça un petit peu dans un coin de votre tête pour parler de Jésus aussi, de ce nom. Du respect que dans cette culture on avait pour le nom de Dieu. Voilà. Alors, je vous ai parlé un peu du nom, dans la Bible, du tétragramme, mais autre chose encore dans la Bible, toujours sur le nom, c'est invoquer le nom de Dieu. Invoquer le nom. Vous connaissez le troisième commandement. Justement, pour ne pas invoquer en vain le nom de Dieu, pas prononcer en vain le nom du Seigneur, et a fortiori pas le profaner. Donc il y a vraiment ce commandement je vais vous citer le pape François dans une de ses catéchèses. L'expression en vain veut dire avide, vainement. Elle fait référence à une enveloppe vide, à une forme privée de contenu. C'est la caractéristique de l'hypocrisie, du formalisme et du mensonge, de l'usage de paroles ou de l'usage du nom de Dieu, mais vide, sans vérité. Et du coup, cette attention, si j'invoque le nom de Dieu, pas le faire de manière distraite, et a fortiori pas le faire pour des choses qui n'en valent pas la peine. C'est pour ça que Jésus, dans l'évangile, on voit, il dit, mais non, n'invoquez pas le nom de Dieu pour des serments qui n'en valent pas la peine. Sinon, vous mettez comme un peu Dieu à votre service. Il y a quelque chose qui ne colle pas. Ou on peut aller même profaner le nom de Dieu. C'est vrai qu'avec quand on donne un contre-témoignage, quelque part, on profane le nom de Dieu qui nous est attaché. Voilà. Alors, il y a ce respect du nom de Dieu qui est très fort. Et invoquer le nom de Dieu, alors ça se faisait dans le monde juif à une manière particulière que j'ai juste évoquée un tout petit peu. C'est à Yom Kippour. Vous savez quelle est cette fête de Yom Kippour? C'est la fête du grand pardon. Et alors, en quoi ça consiste, ce jour de Yom Kippour? Le grand prêtre entrait dans le Saint des Saints, alors c'est, et proclamait le nom de Dieu. Et en retour, en quelque sorte, le péché du peuple était pardonné. Hein, c'est le jour du grand pardon. Mais de devoir, il invoque le nom de Dieu et en retour, justement, c'est le pardon qui est donné à tout le peuple. Alors, c'était qu'une fois par an, la fête du Yom Kippour, et par le grand prêtre. Hein, donc, vous voyez que c'était quand même très l'entonnoir. Dans le catéchisme de l'Église catholique, voilà ce qu'ils en disent. Le nom du Dieu Sauveur était invoqué une seule fois par an par le grand prêtre pour l'expiation des péchés d'Israël, quand il avait aspergé le propitiatoire du Saint des Saints avec le sang du sacrifice. Le propitiatoire était le lieu de la présence de Dieu. Voilà. Donc voilà, ça c'était un petit panorama sur le nom, pour avoir un petit arrière-fond avant de parler plus précisément du nom de Jésus. Maintenant, je vais m'arrêter, c'est ma deuxième partie, sur la signification du nom de Jésus, hein, c'est Dieu sauve. Dans Saint Matthieu, voilà ce que dit, on l'écoute ces jours-ci. Hein. L'ange du Seigneur apparut en songe à Joseph et lui dit, « Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre chez toi Marie, ton épouse, puisque l'enfant qui est engendré en elle vient de l'Esprit-Saint. Elle enfantera un fils, tu lui donneras le nom de Jésus. » C'est-à-dire le Seigneur sauve, car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Quand Joseph se réveilla, il fit ce que l'ange du Seigneur lui avait prescrit, il prit chez lui son épouse, mais il ne s'unit pas à elle jusqu'à ce qu'elle enfonde un fils auquel il donna le nom de Jésus. Donc Dieu sauve, Jésus, ça veut dire Dieu sauve. Alors je vais... C'est vraiment le nom par excellence de Jésus, mais peut-être que vous savez qu'il y en a bien d'autres qui s'appellent Jésus, avant Jésus dans la Bible. Alors, on n'y est peut-être pas habitué, mais parce qu'on ne l'a pas toujours traduit, on ne l'écrit pas de la même manière en français, par exemple. Du coup, alors dans d'autres langues, en français, on donne pas beaucoup comme prénom Jésus à un enfant, mais dans d'autres pays, en Espagne, ça, on le donne beaucoup plus volontiers. Nous, on a peut-être tellement de respect, je sais pas si c'est la raison, mais en tout cas, on le fait pas beaucoup. Mais dans la Bible, il y en a plein d'autres qui portent le nom de Jésus. Je vais vous en citer que deux. Je ne suis pas assez calé pour vous en citer d'autres, alors. Mais il y a un premier, c'est Josué. Alors, Josué, c'est, en fait, ça se prononce exactement pareil, mais pour pas confondre, on a mis des lettres un peu différentes, mais c'est exactement la même chose. Hein. Donc Josué, c'est le successeur de Moïse qui fait entrer dans la terre promise. Voilà. Alors, par exemple, vous lisez dans le Siracide, au chapitre 46, verset 1. Josué, fils de Noun, fut un vaillant guerrier et succéda comme prophète à Moïse, justifiant le nom qu'il portait. Il se montra grand sauveur des élus du Seigneur, châtiant les ennemis dressés contre lui. Il fit entrer Israël dans son héritage. Donc, il justifie le nom qu'il portait, qui aidait de sauver. Alors, c'est pas vrai aussi vrai que pour Jésus, mais bon, mais il a quand même une mission importante. Et puis, celui qui est le livre de Ben Sira, hein, il s'appelle Jésus Ben Sira. Alors, je vous cite encore le Siracide. Cet enseignement plein d'intelligence et de savoir a été gravé dans ce livre par Jésus, fils de Sira, fils d'Éléazar de Jérusalem, qui a répandu comme une ondée la sagesse de son cœur. Après, on pourrait voir. Peut-être qu'on en reparlera une autre fois, mais Barabbas, ça vous. Et qu'est-ce que ça veut dire Barabbas ? Bar, Abba, c'est le fils du père. Alors nous, on n'est pas, on passe dessus et puis on ne se rend pas forcément compte, mais ceux qui ont écouté, en tout cas qui ont écouté, là c'est dans Saint-Marc, Saint-Matthieu, ben tout de suite il faisait le lien. Et alors, donc justement, puisqu'il n'était pas le seul, c'est pour ça qu'on ajoute souvent Jésus de Nazareth. Hein, pour bien voir de quel Jésus on parle, parce que à son époque, il y avait d'autres Jésus. Alors, du coup, pour le distinguer des autres, ou Jésus le Galiléen, ou Jésus de Nazareth, fils de Joseph. Hein, donc, on ajoutait quelque chose pour préciser, pour ne pas se tromper de Jésus. Voilà. Donc, Jésus n'est pas le seul à porter ce nom. Mais il est le seul à le porter avec la plénitude de signification que ça comporte, bien sûr. Non, parce que, étymologiquement, c'est « sauve ». Le « y », c'est ce qu'on a mis avec un « j », etc. « Yehoshua »,« Yeshua », voilà. Alors, ce nom de, justement, de, pour Jésus, on appelle aussi Jésus le sauveur du monde. Mais finalement, ça rejoint la signification de Jésus. Hein. Vous connaissez le signe de ralliement des premiers chrétiens. Je ne suis pas très doué en dessin. Le poisson, bah, vous évitez de l'écrire. Et pourquoi le poisson ? Exactement, parce qu'en grec, le poisson, c'est ictus. Ictus, donc le Jésus-Christ, fils du Dieu Sauveur. Hein, donc, c'est les initiales de Jésus-Christ, fils du Dieu Sauveur. Mais voilà, donc, on explicite vraiment le Sauveur. Ça revient beaucoup dans Saint Jean, par exemple. Vous vous rappelez, après la fin de l'épisode de la Samaritaine, Il y a toutes les... Et puis après, elle rencontre les gens, etc. Et les hommes de Sychar, donc, nous connaissons que celui-ci est véritablement le sauveur du monde. Hein, ou dans la première épître de Saint Jean aussi, Saint Jean dit le Père envoyait le Fils, sauveur du monde. Hein, c'est vraiment la signification du nom de Jésus. Alors peut-être que du coup pour le salut, donc c'est, je vais vous parler un peu du salut là à travers le contenu, on pourrait dire, du nom de Jésus. Peut-être un petit parcours dans l'Ancien Testament. Bon, être sauvé, c'est être tiré d'un danger où on risquait de périr. Hein, alors, selon le danger ou le péril dont on était tiré, ça peut être une libération, une protection, un rachat, une guérison. Mais tout ça, c'est le salut. On verra encore un peu plus précisément ce que c'est après. Et on voit que le salut, c'est vraiment quelque chose de central dans la Bible. On voit que on parle de l'histoire du salut. Hein, l'histoire du salut. Dieu, dès le premier péché, Dieu veut sauver l'homme. Vous connaissez peut-être la quatrième prière eucharistique. Les prêtres ne la prennent pas très souvent parce que lors des fêtes, on ne peut pas la prendre. Enfin, je ne rentre pas dans les détails. Mais Père très saint, nous proclamons que tu es grand et que tu as fait toutes choses avec sagesse et par amour. Tu as créé l'homme à ton image et tu lui as confié l'univers, afin qu'en se servant toi seul, son créateur, il règne sur la création. Alors, après, les choses se gâtent à cause du péché. Comme il avait perdu ton amitié par sa désobéissance, tu ne l'as pas abandonné au pouvoir de la mort. Dans ta miséricorde, tu es venu en aide à tous les hommes pour qu'ils te cherchent et puissent te trouver. Tu as multiplié les alliances avec eux et tu les as formés par les prophètes dans l'espérance du salut. Tu as tellement aimé le monde, Père très saint, que tu nous as envoyé ton Fils unique lorsque les temps furent accomplis pour qu'il soit notre sauveur. Hein? Donc le salut, c'est vraiment le Dieu qui vient nous racheter, qui vient nous d'abord du péché, mais aussi des conséquences du péché, la souffrance, la mort. Alors, Dans l'Ancien Testament, on voit beaucoup d'expériences où les gens ont fait l'expérience d'être sauvés par Dieu. Alors, il y a le passage ultra célèbre du passage de la mer Rouge, là où ils ont été sauvés à main forte et à bras étendus. Mais il y a beaucoup d'autres passages. Il y a un moment où Sennachérib, qui fait le siège de Jérusalem, et avec beaucoup d'arrogance, il dit « On voit bien... voir qui va vous sauver de ma main. » Et en fait, il doit plier bagage et voilà, ils sont sauvés. Bon, il y a beaucoup, beaucoup de circonstances. Mais ça, c'est quelque chose qui est très, très fort aussi pour nous. Vous êtes allé dans des sanctuaires, peut-être. Alors, quelquefois, il y a des ex-votos en marbre. Mais dans d'autres lieux, c'est une peinture qui décrit le je sais pas si vous avez vu ça en Italie ou dans d'autres lieux, qui décrit le danger auquel on a échappé. Ou dans d'autres lieux, c'est la photo de la voiture qui est complètement écrabouillée, la personne qui est ressortie indemne ou je sais pas. À un autre niveau, c'est aussi ça qu'ont vécu les Juifs, les Hébreux. Dans certaines circonstances, ils ont fait l'expérience d'avoir été sauvés par Dieu. Bon, il y a Noé, il y a Lot, enfin bon, ça arrive une multitude de fois dans la parole de Dieu. C'est vraiment quelque chose de très très présent dans la parole de Dieu. Alors c'est présent par rapport au passé, et du coup, par exemple, le psaume 135, on rend grâce pour toutes les fois où Dieu est intervenu et à sauver. Mais c'est vrai aussi pour l'avenir. On espère que Dieu nous sauvera. Et c'est aussi dans cette perspective-là que le Messie est attendu pour nous sauver. Et du coup, tout ça dans l'Ancien Testament, ça vient nourrir la prière aussi pour demander d'être, pour crier vers Dieu pour être sauvé. Oui, alors il y a beaucoup de psaumes, hein, je pourrais vous en citer beaucoup, mais ils font l'expérience d'être sauvés. Il y avait un autre passage, mais bon, je ne sais plus. Par exemple, quand Jérémie est jeté au fond de la fosse, alors il crie vers Dieu pour être sauvé, et du coup, il y en a qui vont venir le tirer de la fosse. Etc. Alors, c'est quelque chose de très très présent dans l'Ancien Testament, d'être sauvé. Nous, dans notre culture, quelquefois on pense s'en tirer un peu tout seul, mais je vais y venir un peu après. Et c'est vrai, alors là j'ai fait un très rapide parcours dans l'Ancien Testament, mais c'est vrai aussi dans l'Évangile. Hein, Jésus qui est le Sauveur. Ça se manifeste, il sauve du péché, mais ça se manifeste aussi par les guérisons, etc., que Jésus opère. Ce qui est intéressant dans l'Évangile, mais c'est vrai aussi de l'Ancien Testament, c'est que Dieu offre le salut, mais après, de notre part, il faut avoir foi, il faut y croire. Souvent, Jésus, pas absolument toujours, mais très fréquemment, Jésus requiert la foi avant de faire une guérison. Parce que le salut, ça demande aussi c'est pas quelque chose de magique. Ça nous implique le salut. Alors oui, souvent, c'est la foi où l'exemple qui me vient à l'esprit, c'est, vous vous rappelez, les quatre porteurs qui descendent le paralytique devant Jésus, et alors voyant leur foi, alors c'est pas celle du paralytique, mais c'est ceux qui ont, voyant leur foi, alors il lui dit, tes péchés sont pardonnés, etc. Mais voilà, et le salut nous est offert gratuitement, mais ça requiert de notre part un acte de foi pour l'accueillir. Dans l'Évangile, on voit bien aussi que c'est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Alors, les apôtres, ils ont des grands yeux, mais alors, qui peut être sauvé? Qui peut être sauvé? Et Jésus insiste un petit peu pour dire, mais non, à l'homme, c'est impossible. Justement, le salut, c'est vraiment un don qui nous est fait gratuitement, mais qui est complètement au-delà de nos forces. Alors, qu'est-ce que ça veut dire d'être sauvé? Une image que j'aime bien pour parler du salut, vous vous rappelez de Saint-Pierre? Jésus marche sur l'eau, et Saint-Pierre est dans sa barque, bon, ça va jusque-là, et puis il croit que c'est un fantôme, tout ça. Ben, si c'est toi, ordonne-moi de venir à toi. Donc il y va tranquillement. Et puis il y a du vent, tout ça. Et il commence à couler. Et alors qu'est-ce qu'il dit à ce moment-là? Sauve-moi! Et il crie vers Jésus, sauve-moi! Là, c'est le cri du cœur. Hein, il n'a pas le temps de faire des longs discours avant de faire glou-glou. Et donc, sauve-moi! Alors Jésus le saisit. Mais ça, c'est vraiment l'image du salut. Mais on voit ce cri pour être sauvé, pour ne pas être englouti. Mais nous, on n'a pas forcément ce réflexe de crier quelquefois. Est-ce qu'on a... dans quelle mesure on a ce même désir du salut? Je ne sais pas toujours. Alors, ça peut être sauvé du péché, d'abord. C'est d'abord pour ça qu'est venu Jésus. Hein, le péché... qui nous coupe de Dieu, qui nous coupe des autres. Je pense qu'on pourrait... Jésus qui est sauveur, il ne faut pas hésiter à invoquer son nom justement pour être sauvé du péché. Ça peut être aussi sauvé d'une vie un peu médiocre. Parce que c'est plus simple d'avoir une vie un peu tranquille, mais de demander à Dieu, ben, sauve-moi, parce que sinon j'arriverai pas à vivre ce que tu me demandes dans l'Évangile. Puis ça peut être sauver de la maladie, de la souffrance, de la mort. Alors, Jésus ne nous promet pas forcément d'être sauvés et qu'on guérira, c'est pas automatique, sinon tout le monde, nos églises seraient pleines. Hein. Mais il y a des guérisons quand même, il y a des guérisons. Je ne sais pas si vous avez déjà vu des crèches qui sont représentées comme un tombeau. Il y a des crèches comme ça. On voit l'enfant Jésus qui est entouré de l'ange. Mais ces crèches font le lien entre la naissance de Jésus et puis justement la mort et la résurrection de Jésus. Pour dire aussi que Jésus a pris un corps comme le nôtre aussi. Il n'aurait pas pu mourir s'il n'avait pas pris un corps comme le nôtre. Mais justement, pour faire le lien entre le mystère de Noël et le mystère de Pâques. Donc, il y a des représentations. Vous regarderez, il y a des crèches, des représentations de la crèche comme ça. Comme vous suivez l'actualité ecclésiale avec attention, vous avez certainement qu'un document de 2018. Du 1er mars 2018, ne vous a pas échappé. C'était un document de la Congrégation de la Doctrine de la Foi sur le salut, justement. Alors, pourquoi ce document? Alors, ça, c'est des choses qui reviennent sans cesse dans la bouche du pape François. Il y a deux choses en particulier qui... Il y revient très fréquemment dans la lettre sur la santé, dans d'autres documents. Deux choses qui sont aux antipodes du salut. Vous voulez savoir ces deux choses? Alors, il parle d'abord d'une forme de pélagianisme. Je ne sais pas si vous connaissez le pélagianisme. C'est une hérésie du 5e siècle. Et alors, quelque part dans cette hérésie, c'est, on a une bonne volonté et Dieu nous donne un petit coup de main. Mais on se rend pas assez compte dans cette hérésie que si Dieu n'est pas là, on peut pas y arriver. Et du coup, on a l'impression qu'on peut s'en tirer soi-même. Bon, pour être un peu meilleur, on fait appel au bon Dieu, mais on pense à la limite pouvoir presque s'en tirer soi-même. Et Dieu vient juste nous donner le coup de pouce supplémentaire. Et ça, c'est pas la théologie catholique. Avec la théologie catholique, si Dieu ne fait rien, on est perdu. Alors, comment ça se traduit concrètement aujourd'hui? Mais souvent, il y a un grand attrait pour les ressources humaines, pour le développement personnel. J'ai rien contre le développement personnel, mais il faut quand même être vigilant. Est-ce que je suis que dans cette veine-là ou est-ce que aussi je lutte contre mon péché? Alors, parce que quelquefois on évacue toute la question du péché, on essaie d'être meilleur, tout ça. Alors, je le dis d'une autre manière, peut-être. Là, je m'écarte un peu de mon papier, mais peu importe. J'aime bien la CNV, hein, la communication non violente. C'est très bien, hein, et allez-y. Il y a juste un point où c'est bien d'avoir bien présent à l'esprit que le fondateur, il ne croit pas vraiment au péché originel. Il se dit, si on applique bien la communication non violente, tout se passera bien. Hélas, c'est un peu naïf. Parce que le péché en nous, quelquefois, ça devrait bien se passer. Et hélas, il y a le péché en nous. et pas seulement dans le cœur du voisin, mais dans mon... Alors, penser que tout le monde est de bonne volonté, tout ça, c'est sympathique, mais ça ne correspond pas à la réalité. Du coup, il y a une tendance à évacuer un petit peu tout ce qui concerne le péché. Alors, je ne veux pas non plus culpabiliser, mon but, ce n'est pas de culpabiliser, mais j'encourage beaucoup à la communication non violente, il y a des choses très intéressantes, j'encourage beaucoup au développement personnel, c'est très bien, donc c'est pas... Mais de garder quand même, d'avoir bien présent à l'esprit que c'est Jésus qui nous sauve. C'est pas le développement personnel qui nous sauvera. C'est pas la CNV qui nous sauvera. Justement du germe de mal qui est dans mon cœur. On n'est pas l'Immaculée Conception, hein. Peut-être que vous n'en avez pas conscience, mais il n'y en a qu'une. Alors, je peux le dire. Et on ne se rend pas compte. Et encore une fois, je ne vais pas... C'est très beau la CNV, c'est très beau le développement personnel, et je pense qu'il faut... Dieu nous a donné des talents, il faut les développer, donc j'ai rien contre. En tant que tel, tout en gardant toujours qu'on n'est pas l'Immaculée Conception. Et on a besoin d'être sauvé. Alors, le pélagianisme, donc le pape François insiste beaucoup sur une forme de pélagianisme... et sur une forme de gnosticisme. Alors là, il y en a eu beaucoup dans les premiers siècles, mais c'est encore présent aujourd'hui. On pense qu'en connaissant les choses, ça suffit pour aller bien. Mais justement, on est sauvé par des gestes très concrets de Jésus. Ça ne se situe pas simplement au niveau de la connaissance, parce que notre volonté est blessée. Donc, c'est bien d'apprendre les choses et d'avoir des idées claires, c'est très bien. C'est bien de suivre les enseignements, bien entendu. Mais il ne suffit pas d'avoir les idées claires et d'être dans un groupe d'initiés avec les idées claires. Non. Non, ça ne suffit pas. On a besoin d'être sauvé, là aussi. Et que dans notre volonté, il y a un germe de méchanceté. Alors, on n'est pas forcément des gens horribles et archi mauvais, mais on n'est pas l'Immaculée Conception. Et du coup, dans le gnosticisme, on se demande ce que viennent faire les sacrements. S'il suffit de savoir pourquoi être baptisé, pourquoi recourir à ces signes sensibles, hein, les sacrements, c'est vraiment des signes humbles et y a une partie matérielle dans les sacrements. Justement, parce que ça ne se passe pas simplement au niveau de notre tête. Jésus nous sauve. S'il a pris cher Jésus, si Jésus s'est fait cher, c'est précisément que ça ne se passe pas simplement au niveau de notre cerveau. Donc, c'est... Alors, du coup, le pape François insiste beaucoup. Et Jésus veut nous sauver avec notre corps, pas simplement... Il ne veut pas simplement sauver notre cerveau. Voilà, où je pense à la méditation de pleine conscience. J'ai rien contre et c'est très bien, mais il ne faut pas confondre donc quand même la méditation de pleine conscience et l'oraison. Ce n'est pas la même chose. Ça peut être très bien pour s'apaiser, pour mettre un peu d'ordre, ça peut être très, très bien, hein, mais ce n'est pas l'oraison, parce que l'oraison rencontre Dieu. La méditation de pleine conscience, on peut être cohérent avec soi-même, tout ça, mais c'est autre chose que d'être avec Dieu. Alors ça peut être un préliminaire qui nous dispose bien. Là encore une fois, j'ai rien contre la méditation de pleine conscience, en notant quand même ses limites. Comme il y a des limites au développement personnel, il y a des limites à la CNV et il y a des limites à la méditation de pleine conscience. C'est pas l'oraison de Sainte Thérèse d'Avila. C'est pas la même chose. Elle peut nous y aider à certains moments, tout ça, mais vous voyez, donc, alors on est encore dans le thème du salut, et le salut passe par le lien avec l'Église. Mais bon, allez, il faut que je saute là, parce que je peux vous parler encore 5 minutes, 10 minutes. Pardon ? Oui, vous pouvez. Ah ben oui, après vous les faites vôtres et puis pour Ah ben, quand vous, la CNV, oui, ça peut, c'est un outil qui est la méditation de pleine conscience. Vous pouvez, ça peut être un outil, mais en mesurant que c'est pas ça qui va vous sauver, c'est pas ça qui va vous sauver. Hors de Jésus, point de salut, on va dire. C'est pas la méditation de pleine conscience qui va vous sauver. Mais ça peut être des outils, et, mais ça reste un outil. C'est pas une finalité. Alors, j'arrive au troisième point, vite. Différentes manières de prononcer le nom de Jésus. Ce qui, dans les premières communautés chrétiennes, on parlait des chrétiens comme ceux qui invoquent le nom de Jésus. C'était, voilà, on les reconnaissait, ah, ça c'est ceux qui invoquent le nom de Jésus. Et Saul s'acharnait contre ceux qui invoquaient le nom de Jésus. C'est vraiment le nom de Jésus qui faisait l'unité des premiers chrétiens. Hein, ce qui est, pardon, là où deux ou trois sont rassemblés en mon nom, je suis là au milieu d'eux. Hein, ça, c'est dans Saint Matthieu. Et dans l'Apocalypse, par exemple, il parle des sauvés qui portent le nom de leur Dieu sur le front. Alors, il semble que, justement, quand on est au moment du baptême, on faisait un X, Christos, pour lui marquer sur le front. Mais, quelque part, c'est le nom de Jésus, au bout du compte. Alors, je vous cite le verset de l'Apocalypse, c'est au chapitre 22, verset 3-4. Le trône de Dieu et de l'agneau seront dans la ville, et les serviteurs de Dieu lui rendront un culte. Ils verront sa face, et son nom sera sur leur front. Quelque part, quand on devient chrétien, on porte le nom de Jésus. Comme quand, alors maintenant ça change un peu les lois, mais avant, une femme se mariait, elle portait le nom de son époux. Nous, en étant baptisés, quelque part, on porte le nom de Jésus, et on se réclame de lui. Et du coup, ceux qui ont évangélisé les premiers, leur mission principale, c'était d'annoncer le nom de Jésus, publier le nom de Jésus. Ah ben, je peux vous citer un extrait des Actes des Apôtres, c'est au chapitre 9, je pense. 21, non, c'est au chapitre 21. Non, 9. Voilà, on y arrive. 9, il y a trois récits de la conversion de saint Paul. Et alors, voilà ce que dit Anani. Saul est ici après avoir reçu de la part des grands prêtres le pouvoir d'enchaîner ceux qui invoquent ton nom. Mais le Seigneur lui dit, va car cet homme est l'instrument que j'ai choisi pour faire parvenir mon nom auprès des nations, des rois et des fils d'Israël. Et moi, je lui montrerai tout ce qu'il lui faudra souffrir pour mon nom. Et sans plus attendre, il proclamait Jésus dans les synagogues, affirmant que celui-ci est le Fils de Dieu. Tous ceux qui écoutaient étaient stupéfaits et disaient, n'est-ce pas lui qui, à Jérusalem, s'acharnait contre ceux qui invoquent ce nom-là et n'était pas venu ici afin de les ramener enchaînés chez les grands prêtres? Voilà, et saint Paul annonce le nom de Jésus. Et ça, oui, c'était sa vie, hein, d'annoncer le nom de Jésus. Donc, nous sommes le peuple de Jésus, on pourrait dire, le nom de Jésus. Et après, le nom de Jésus, c'est... une invitation aussi à entrer dans une relation personnelle plus grande avec Jésus. Prononcer le nom de Jésus, c'est, je crois que c'est un pape qui dit ça, c'est la prière la plus courte, la plus facile et la plus puissante de toutes. Jésus, vous avez fait votre prière. Oh, vous pouvez le dire plusieurs fois, hein, quand même. Enfin. Mais, ou, voilà ce que dit le catéchisme. Le nom de Jésus est au cœur de la prière chrétienne. Toutes les oraisons liturgiques se concluent par la formule Per Dominum Nostrum Iesum Christum, hein, par notre Seigneur Jésus-Christ. Et le Je vous salue Marie culmine dans Et Jésus, le fruit de vos entrailles est béni. Alors il y a aussi la prière du nom dans l'Orient, plutôt l'Orient chrétien. Seigneur Jésus, Fils du Dieu vivant, et pitié de moi, pécheur. Et toujours dans cette spiritualité du nom de Jésus qui a été beaucoup développée par Saint Bernardin de Sienne. Je crois que c'est 15e siècle, Saint Bernardin de Sienne. Et c'est lui aussi qui a... Là, vous connaissez ça. Alors, c'est le début de Jésus. Dans les manuscrits du Nouveau Testament. Alors ça correspond à eux. Yes. Et puis, alors, Saint Bernard d'Ancienne va beaucoup le développer, alors avec un soleil, etc., mais c'est vraiment le nom de Jésus, et encourager beaucoup à prononcer le nom de Jésus. C'est pour ça, sans doute, que Jeanne d'Arc, elle est morte sur le bûcher en prononçant le nom de Jésus, mais sans doute, elle a été influencée par la prédication de Saint Bernard d'Ancienne, hein, qui invitait vraiment à porter le nom de Jésus, à porter, à se nourrir du nom de Jésus. Et du coup, alors après, quand c'est comme ça, les jésuites vont le reprendre, Calvin va le reprendre, je crois que ça doit faire partie pour la ville de Genève, je crois, oui, c'est ça. Et du coup, après, c'est Jésus, sauveur des hommes. Attends, oui. Jésus, hominum salvator. Donc, bon. Mais en tout cas, c'est les trois premières lettres de Jésus. Et du coup, ce nom de Jésus, c'est une invitation justement à le porter, mettre vraiment au centre de notre vie, comme dit Saint Paul dans l'Épître aux Colossiens. Tout ce que vous pouvez dire ou faire, faites-le au nom du Seigneur Jésus, en rendant grâce à lui, par lui à Dieu le Père. On voit, c'est très présent chez Saint Paul. Pour moi, vivre, c'est le Christ. Je vis, mais ce n'est plus moi, c'est le Christ qui vit en moi. Et on peut aussi prononcer le nom de Jésus un peu comme un amoureux. Alors, il y a des beaux textes de Saint Bernard en particulier qui commentent le Cantique des Cantiques. Alors le verset du Cantique, c'est « Ton nom, un parfum qui s'épanche ». Et Saint Bernard commente en disant que le nom de l'époux est une lumière, une nourriture, un remède. Il éclaire quand on le publie, il nourrit quand on y pense à part soi. Et quand on l'invoque dedans la tribulation, il procure l'adoucissement et l'onction. Voilà ce nom qui nourrit et qu'on goûte à l'intérieur. Alors c'est déjà, on peut dire le nom de Jésus pour prier, on peut dire le nom de Jésus pour lui dire notre amour, mais aussi pour l'invoquer. C'est très présent dans les Actes des Apôtres, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Et vous vous rappelez au chapitre 3, là je vis, donc j'ai perdu un peu le fil, mais au chapitre 3 des Actes des Apôtres, il y a l'infirme de la belle porte. Hein, donc c'est au nom de Jésus, lève-toi et marche. Et alors, si vous reprenez le chapitre, il est tout le temps en question du nom de Jésus. Mais vous voulez remplir la ville du nom de cet homme, etc. Donc, mais c'est pas non plus quelque chose de magique, mais d'invoquer le nom de Jésus, c'est invoquer aussi le salut. Hein, invoquer le nom de Jésus, c'est invoquer vraiment le salut. Alors bien sûr, c'est pas quelque chose de magique, parce que ça suppose d'y croire, et ça suppose d'être disposé à obéir à Jésus. Hein, mais, comme c'est dans l'évangile de Saint Matthieu et Saint Luc, où il dit, il suffit pas de dire Seigneur, Seigneur, hein, il faut faire la volonté. Donc ce nom de Jésus, c'est pas à invoquer n'importe comment. et c'est au nom de Jésus qu'ils expulsent les démons, qu'ils guérissent les malades, etc. Enfin bon. Ah oui, c'est au chapitre 4, surtout le 3 et 4. Au chapitre 3, verset 6, c'est là, « Je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ, lève-toi et marche. » Puis après, il y a toute la controverse avec le chef du peuple, des anciens, des scribes. Par quelle puissance, par le nom de qui avez-vous fait cette guérison ? C'est la question qui revient. Vous pourrez regarder. Et ça, les apôtres, en faisant ça, étaient fidèles à ce que Jésus leur avait dit. Ça revient à trois reprises dans le discours après la scène. Tout ce que vous demanderez au Père en invoquant mon nom, je le ferai. Tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donnera. Ça, chapitre 14, chapitre 15, chapitre 16 encore. En ce jour-là, vous demanderez en invoquant mon nom et le Père exaucera. Mais je pense que comme conclusion, on pourrait dire de rendre grâce pour le nom de Jésus qui nous a été donné. Parce que si vous vous rappelez dans l'Ancien Testament, le nom, on ose à peine le prononcer. Nous, on a un nom qu'on peut prononcer, Dieu qui s'est fait proche et qui reste le Dieu Tout-Puissant aussi. Il n'a pas... Du coup, alors prononcer un peu comme les saints le nom de Jésus avec amour. Et puis d'invoquer la puissance de la grâce qui est attachée à ce nom de Jésus. C'est lui qui sauve. Il y a une fête du Saint-Nom de Jésus, c'est le 3 janvier. Alors, elle n'est pas très solennisée, mais elle existe, cette fête. Et puis, il y a des chants qui mettent en valeur le nom de Jésus. Hein. Alors, il y en a un, c'est... Jésus, Jésus, je viens à toi maintenant. Tu me donnes tes richesses et je t'aime tant. Puis bon, enfin, il y en a beaucoup d'autres, mais qui peuvent nous aider à prononcer ce nom de Jésus, à le répéter. Bon, je m'en arrête là. Vous avez des questions ? Je ne vous ai pas laissé beaucoup de place pour les questions.
En fait, moi, ça m'intéresse parce que je veux dire, par rapport à notre prénom, c'est pas terrible quand on nous donne un diminutif. Jésus, ça a un sens, le nom. Le nôtre aussi, le prénom a un sens pour notre mission aussi. Non
Alors, notre prénom a un sens. Après, il n'est pas chargé du même sens que le nom de Jésus. Comme Josué portait aussi ce nom de Dieu sauve, mais vous voyez, il y a un décalage quand même entre Josué et Jésus. Alors, nous aussi, notre nom, alors il peut dire quelque chose. Alors là, ça comporte beaucoup de questions. Par exemple, quand un frère entre dans la communauté, change-t-il de nom ou pas ? Alors, ça dépend. Après, ça demande certainement un peu de discernement pour savoir, avant de le changer, je pense qu'il faut d'abord voir qu'est-ce que mon nom veut dire. Et je n'ai jamais pensé le changer, mais... Alors, après, je pense que, au-delà, parce qu'il y a le prénom qu'on donne au baptême, et puis après, il y a ce nom dans la Bible qui est sur le caillou blanc. Ce n'est pas forcément exactement le prénom du baptême, c'est la manière dont Dieu nous connaît. Alors, peut-être aller au-delà aussi du prénom du baptême, peut-être qu'on a reçu, ou découvrir... un peu qui on est, quelle est notre mission. Alors, qu'on n'exprime pas forcément par un nom précis, nous, mais... Oui, je ne sais pas si c'est très clair. Mais Mais oui, découvrir en tout cas qui on est, mais qui n'est pas forcément contenu directement dans le prénom que nos parents nous ont donné au moment du baptême ou sur l'état civil.
Allez. Est-ce qu'on
peut demander des choses
au nom de Jésus ?
Mais oui, bien sûr. Alors, oui, bien sûr, on peut demander des choses au nom de Jésus. Hein. Jésus nous l'a dit hein, dans l'évangile de Saint Jean, tout ce que vous demanderez en mon nom, il vous l'accordera. Là, on se dit, j'ai demandé beaucoup de choses, mais alors, oui, je pense qu'il faut le demander. Après, alors ça, c'est toute la question de la prière de demande. Dieu ne nous donne pas forcément exactement ce qu'on, de la manière dont on avait demandé, etc. Donc, c'est à l'intérieur d'un dialogue, on pourrait dire, où Dieu fait évoluer aussi notre demande au fur et à mesure. Parce qu'au début, bon, mettons, on est malade, on veut être guéri, c'est simple. Après, on voit que ça ne se passe pas forcément. C'est compliqué de chaque fois se réajuster, mais finalement, qu'est-ce que tu veux, Seigneur ? Et en même temps, tu me demandes d'avoir de l'audace. On est toujours pris entre le fait d'avoir de l'audace et dire, voilà. Et peut-être que Dieu veut nous faire évoluer, je pense. C'est quelque chose qui est... Il n'est pas très facile, je pense. Mettons, si quelqu'un de notre entourage est malade, de demander la guérison, bien sûr qu'on peut la demander, et il faut la demander, bien sûr. Mais en même temps, il y a manière et manière de la demander. Alors, je ne sais pas s'il y a une manière univoque de demander. Quelquefois, il faut réajuster notre demande. Si Dieu ne nous répond pas, qu'est-ce qu'il veut dire ? Je pense que Dieu veut toujours rester en dialogue avec nous. Et dans la prière de demande, on ne peut pas non plus s'obstiner. Enfin, comment dire ? En même temps, il faut une vraie audace. Et en même temps, il faut accepter que Dieu ne fera pas forcément notre volonté. C'est le curé d'Ars qui dit « Dieu fait les quatre volontés de celui qui fait sa volonté ». Alors on a l'impression que c'est... Mais en même temps, non, c'est nous aussi... Alors la prière de demande, c'est un long combat pour voir mais est-ce que ma demande est ajustée ou est-ce que... Alors c'est toujours bien de demander la guérison, hein, c'est une bonne demande. Mais peut-être que Dieu veut me donner quelque chose d'un peu différent de ce que au premier abord que je désire au premier abord, sachant aussi que derrière ça, peut-être il faut aussi que je remette tout en perspective. Alors la guérison, c'est une grande grâce, mais la plus grande grâce encore, c'est d'être sauvé et d'aller au ciel. En même temps, alors... Alors, quelqu'un m'avait raconté qu'il y avait une personne handicapée, mais qui demandait les choses avec une... elle voulait une voiture rouge. Enfin, je ne sais pas pourquoi, pour ses parents. Et on se dit, mais, déjà, si déjà ils ont une voiture, c'est déjà pas mal. Mais... Le bon Dieu a exaucé sa demande. C'est une voiture rouge qui est arrivée. Alors, Dieu écoute aussi si on lui fait vraiment confiance. Mais c'est compliqué hein, de savoir exactement comment se situer. Mais peut-être y aller avec beaucoup d'audace et en même temps, on y va avec l'audace, mais sans entrer dans un bras de fer avec le bon Dieu. Je pense qu'il ne s'agit pas de rentrer dans un bras de fer. On est dans une relation et je pense que cette personne handicapée, voilà, elle était complètement libre, mais elle ne rentrait pas dans une négociation ou tout ça. Je ne sais pas très bien comment exprimer. Mais on peut tout demander au nom de Jésus, mais en se laissant aussi interpeller.
Quelquefois, tu me dis, voilà, je suis qui pour vivre comme ça, quoi. Donc ça, pour une prière de demande, pour y aller, pour quelque chose, ça m'est plus facile de dire au nom de Jésus pour chasser une mauvaise.
Oui.
Parce que je me dis, là, ça sent vraiment...
Oui. Oui, c'est vrai, quelquefois on se dit, mais qui suis-je pour le nom de Jésus? Mais il y en a beaucoup qui font des guérisons en invoquant le nom de Jésus. Mais ça dépend beaucoup de notre attitude intérieure. Est-ce qu'on le fait... On peut le faire avec beaucoup d'humilité, sans que ça soit, sans se prendre trop au sérieux, quoi. C'est aussi dans cette confiance à l'égard du nom de Jésus. Hein. Quand on dit au nom de Jésus, c'est...
Comment on invoque l'Esprit Saint?
Alors, c'est un petit peu différent. Alors, mais là, c'était plus centré sur le nom de Jésus. Et que vous, si vous regardez dans... On en parle tout le temps quand vous commencez à regarder un peu dans les actes des apôtres, etc. On parle tout le temps du nom de Jésus. Donc, mais bien sûr que l'Esprit Saint n'est pas absent hein, dans cette... c'est l'Esprit Saint. Nous-mêmes, nous ne savons pas prier comme il faut, hein, nous dit Saint Paul. Hein, l'Esprit intervient pour nous avec des gémissements, des femmes, etc. Donc c'est l'Esprit Saint aussi qui nous donne peut-être d'avoir cette prière ajustée qui nous permet de demander vraiment au nom de Jésus. Mais c'est... Quand on prie au nom de Jésus, c'est parce que Jésus a donné sa vie pour nous sur la croix. C'est quelque part, ça, la puissance de cette prière, elle est reliée au fait que Jésus a donné sa vie pour nous sur la croix. Jésus est mort et ressuscité. Derrière, c'est... Voilà, on s'appuie sur le sacrifice de Jésus et puis il faut demander quelque chose.
C'est se décentrer.
Oui. Ah. Ça ne les gêne pas trop, mais non, je pense qu'on peut y aller tranquillement. En revanche, ne pas prononcer, oui. Ça, je pense que c'est vraiment important pour eux. Mais du coup, ce qui est intéressant aussi, c'est que nous, de mieux mesurer la chance qu'on a de pouvoir s'adresser. Dieu qui s'est fait proche de nous, Emmanuel. Hein. Alors, c'est un peu étrange dans le premier chapitre de Saint Matthieu. Tu lui donneras le nom de Jésus et puis après, il continue en parlant de l'Emmanuel. Je sautais ça, mais... alors on se dit, mais c'est Jésus ou c'est Emmanuel, finalement, son prénom? Mais en fait, ça ne s'oppose pas. Le nom, c'est Jésus. Mais en même temps, dans Emmanuel, c'est Dieu avec nous, se traduit cette proximité de Dieu avec nous. Et du coup, c'est quelque chose qui est plus... Peut-être que les Juifs ne perçoivent pas l'immense, je sais pas comment dire, la proximité énorme de Jésus. Oui, de Dieu en Jésus.
Comme Dieu dans la Genèse, ce mot Dieu vient de psychologie.
Alors, le tétragramme, c'est le nom imprononçable qui est révélé à Moïse. Mais sinon, il y a bien d'autres noms par lesquels ils désignent Dieu, El Shaddai, ou Elohim, Adonai, ou voilà. Donc, ils parlent de Dieu. Mais le tétragramme, c'est à part. C'est vraiment, T'es en présence de Dieu lui-même, c'est moins descriptif que les autres, peut-être. Là, c'est son petit nom, si je peux dire. Je sais pas. Tout le monde ne peut pas se permettre de le prononcer quelque part. Pensant ça. Tandis que, bien sûr, il parle de Dieu. Mais en évitant de prononcer son nom. Ça, c'est vraiment... autre chose est d'avoir des appellations de Dieu. Autre chose est le nom de Dieu. Jésus, c'est le nom du Dieu fait chair, du Verbe fait chair. Donc, c'est là qu'on voit qu'il y a quelque chose de particulier dans ce nom, une puissance particulière.